Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la littérature. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino, Camille André, Coppelia Menardi, prise de son assurée ce soir par André Guélil, réalisation Thomas Beau. Et autour de moi, pas encore des intelligences artificielles mais bien réelles, Elisabeth Philippe, Florent Georgesco, Jean-Christophe Briançon pour parler ensemble de Une vieille histoire, nouvelle version de Jonathan Little, publiée chez Gallimard, Être de René Belletto chez POL et Le corps des bêtes d'Audrey Villeneuve chez Grasset. C'est Coppelia Menardi ce soir qui va surveiller, si son ordinateur s'allume, les fils Twitter et Facebook pour donner à entendre vos commentaires. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour l'exposition L'épopée du canal de Suez à découvrir jusqu'au 5 août à l'Institut du monde arabe à Paris. Et si vous voulez bien m'excuser, Coppelia, le premier tweet, c'est moi qui vais le dire, c'est un message personnel, enfin presque collectif, puisque Grégoire le Ménager nous prévient. Attention, Elisabeth Philippe a mangé du lion pour son déjeuner. Nous voilà prévenus. Ah, il aime bien. Vous avez des
fake news.
Fake news. Vous n'avez pas mangé de lion?
Absolument pas.
Même pas une barre chocolatée?
C'était un simple chat.
Alors là, ce serait vraiment terrible pour elle. Bon, Grégoire le Ménager, à l'écoute, j'imagine, et qu'on salue. Revenons au sommaire pour rappeler qu'il y a 12 ans, un premier roman remportait le prix Goncourt, se vendait à 1 million d'exemplaires. Il s'agissait des Bienveillantes, Jonathan Little. L'écrivain revient au roman et à la longue forme en reprenant et amplifiant un court texte paru en 2012 aux éditions Fata Morgana. Il propose 7 variations sur le même point de départ. Et on verra qu'il s'agit d'interroger de toutes les façons les relations humaines. Ma tête creva la surface et ma bouche s'ouvrit pour happer l'air, tandis que, dans un vacarme d'éclaboussures, mes mains trouvaient le bord, prenaient appui et, transférant la force de ma lancée aux épaules, hissaient mon corps ruisselant hors de l'eau. Je restais un instant en équilibre au bord, désorienté par les échos assourdis des cris et des bruits d'eau, étourdi par la vision fragmentée de parties de mon corps dans les grandes glaces encadrant le bassin. Autour de mes pieds, une flaque allait en s'élargissant. Un enfant fila devant moi, manquant de me faire partir à la renverse. Je me ressaisis, ôtais mon bonnet et mes lunettes et, jetant un dernier regard par-dessus mon épaule à la ligne luisante de mes muscles dorsaux, sortis par les portes battantes. Séché, revêtu d'un survêtement gris et soyeux, agréable à la peau, je retrouvais le couloir. Je dépassais sans hésiter une bifurcation, puis une autre. Il faisait assez sombre ici, et la lumière indistincte laissait à peine entrevoir les murs. Je me mis à courir à petite foulée, comme pour un footing. Je pourrais continuer longtemps, mais je vais m'arrêter là. C'est le tout début du livre de Jonathan Little pour une scène qui va se répéter, disons-le, un peu différemment cette fois, et un enchaînement de séquences, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, qui vont se dérouler de façon diverse, selon d'ailleurs peut-être aussi parfois le genre du narrateur ou de la narratrice, et selon les univers qu'il va rencontrer. Mais on retrouvera dans chacune des 7 parties de Une vieille histoire, nouvelle version, des éléments qui vont se répéter, se faire écho, se diffracter. Jean-Christophe Briançon va commencer à nous parler de ce livre de Jonathan Little.
Alors c'est effectivement un enchaînement de 5 séquences par chapitre, donc c'est 35 séquences qui effectivement se ressemblent et qui se suivent dans ce roman, et qui suivent de manière assez magistrale selon moi, et qui prouvent à ceux qui en avaient besoin le talent de Jonathan Little, puisque vous le disiez, suite à la publication des Bienveillantes en 2006, il avait quand même fait l'objet de pas mal de critiques, ou en tout cas de débats. Débat qui, selon moi, n'avait pas forcément lieu d'être, et la suite l'a prouvé, entre autres par Le sec et l'humide, qui pour moi est un grand livre, qui entre autres a fait l'objet d'un spectacle mis en scène par Guy Cassiers, qui est tout aussi remarquable que le livre. Donc pour ceux qui en doutaient, c'est un livre qui permet de prouver une fois de plus que Jonathan Little est un grand auteur, et un grand auteur de la précision, entre autres, puisqu'il le dit lui-même dans l'entretien qu'il a donné au Monde, là, je crois, il y a la semaine dernière.
C'est dans le Monde d'aujourd'hui. Voilà. Et c'était sur Internet dès la semaine dernière.
C'est dans le Monde papier du jour.
Enfin, oui. Voilà, comme quoi je suis vraiment à la page.
Ouais.
Me faire plaisir.
il dit lui-même qu'il attache une grande importance à la précision, et c'est un des traits caractéristiques de cette écriture et de ce roman-là en particulier. Enfin, c'était aussi le cas des Bienveillantes, c'est de faire l'objet d'une précision dans, entre autres, ses descriptions, mais aussi dans sa construction narrative, puisque vous le disiez, c'est des séquences qui se répètent, mais et qui se remarquent aussi effectivement certains détails qu'on y retrouve, entre autres, par exemple, les pommes. Il y a toujours une séquence.
Ça dépend des couleurs.
Voilà, dans laquelle un des personnages mange une pomme qui sera d'une couleur différente. Et les personnages aussi auront des différences, soit des différences de genre ou d'âge. Donc ça, c'est assez remarquable la précision avec laquelle il décrit chacune des situations qui sont celles des personnages. Des situations qui sont, on pourrait dire, à l'image des répétitions qu'on vit dans le monde, puisque le personnage court dans un couloir, et au fil de sa course, à chaque fois rentre dans des pièces qui émaillent son parcours. Et dans chacune des pièces se trouve une situation dont on peut penser qu'elle serait représentative d'un état donné du monde ou d'un état donné du temps qu'on vit. C'est aussi remarquable par la fuite et par l'indécision, par l'illisibilité de ce qui nous est dit. Le titre d'ailleurs l'indique, puisque on pourrait aussi bien parler d'éternel retour, évidemment, que d'espoir aussi permanent, puisque par son entrée dans chacune de ces pièces qui sont dans ce couloir, le personnage fait quand même preuve à chaque fois d'un espoir renouvelé, puisque chaque pièce lui faisant vivre un enfer particulièrement atroce, le simple fait de ressortir dans ce couloir et d'accepter de rouvrir une pièce quand même nous montre que finalement il y a de l'espoir malgré l'enfer des séquences proposées. Et donc c'est par là aussi assez remarquable.
Florent Jargesco, à présent, sur Une vieille histoire, nouvelle version.
Oui, je partage totalement l'enthousiasme de Jean-Christophe. Je trouve que c'est un livre d'une puissance assez rare. Et c'est surtout, on peut revenir en effet aux Bienveillantes, comme vous l'avez fait pour commencer. Une des marques d'un grand écrivain, c'est de troubler, de mettre en question les appellations, les catégories qu'on peut lui infliger, si je puis dire. Dès Les Bienveillantes, roman pourtant très précisément situé dans le genre historique, tout le monde a commencé à s'affoler autour de ce qu'il y faisait. On lui a, dans les polémiques que vous rappeliez, on lui a reproché d'avoir tel ou tel rapport à l'histoire du nazisme, c'est-à-dire de le surinterpréter psychologiquement, de mettre justement déjà trop de sexualité, de mettre... On a toujours autour de Little, et ça s'est poursuivi après dans ces livres qu'on a considérés comme mineurs, ce qui était une erreur de plus. On a toujours glissé sur Little, on a toujours trébuché, hésité, bougé, comme et en quelque sorte dans ce livre-là, il rend les choses définitives. Il n'est plus possible de lui attribuer quelque forme que ce soit. Il les fait toutes glisser dans une autre forme à mesure que le. C'est-à-dire, est-ce que ce livre est fondé sur de la variation? Est-ce qu'il est fondé sur une sorte de provocation sur le genre? Est-ce qu'il est. Il n'est rien de ce qu'on peut lui attribuer. C'est ce qui rend sa lecture, pour moi, absolument prenante. C'est-à-dire la précision dont Jean-Christophe parlait est une précision dans le travail qu'il fait dans le ventre de son lecteur, en quelque sorte. Il est extrêmement chirurgical pour, en nous ayant débarrassé de tout ce qu'on pouvait attendre, arriver directement à ce qu'il veut nous dire de notre propre intériorité, de cette vieille histoire qu'est l'humanité en chacun de ses lecteurs. Et en travaillant avec une puissance, une sorte de saturation fantasmatique de toute la réalité, il arrive, je pense, à nous faire nous demander qui nous sommes à mesure qu'on se demande qui ces personnages sont. Parce que Jean-Christophe, vous disiez, ce qui est une manière totalement exacte de résumer le livre, qu'un personnage passe dans un couloir, ouvre des portes, et on attend quelque chose ou pas, et en tout cas il se passe quelque chose quand il pousse ses portes, mais est-ce que c'est le même personnage? On ne le sait jamais. Est-ce que, puisque donc la boucle que fait chaque chapitre l'amène du bassin d'une piscine au couloir de cette piscine, avant de replonger, après quelques aventures, dans cette même piscine? D'abord, est-ce que c'est la même? Mais est-ce que c'est le retour à la même chose? Vous le disiez, Arnaud, quand vous lisiez ce début. Ce début se retrouve en quelque sorte au début de chaque autre chapitre, sauf que les variations font tout. Et donc, à force de faire de tout variation, la variation n'est même pas la règle. C'est-à-dire qu'il détruit toutes les règles peu à peu. Et du coup, nous sommes assez, c'est un peu dans le registre de ce livre, assez à poil face à lui. Et c'est une de ses grandes puissances. Surtout qu'une fois nu dans ce livre, il nous arrive des malheurs qui sont assez intéressants à fouiller. On y reviendra peut-être.
On va pas s'admirer dans les reflets de la vitre du studio pour autant. Elisabeth, Philippe.
Alors je partage l'enthousiasme de mes camarades. Je pense que là, on a peut-être une approche pour l'instant assez abstraite de ce livre qui est effectivement fondé sur un principe sériel, une logique de répétition. Cette précision à laquelle vous faisiez allusion, Jean-Christophe, et qui est presque une forme de rigueur mathématique. D'ailleurs, de Nathanie Tell, que j'ai rencontré aussi, me disait qu'il avait vraiment fait des tableaux, des calculs pour trouver la variation dans la couleur de cheveux, puisque chaque paramètre, en fait, il faut toujours trouver les petits changements pour recomposer perpétuellement le tableau.
Qui portera un chignon.
Mais à la limite, il n'y aurait que ça, ce jeu formel, qui n'est quand même pas neuf, qu'on a vu chez Rob Grillet, qu'on a vu chez Schnitzler, etc. Les couloirs qui peuvent rappeler Alphaville. En plus, c'est une littérature absolument nourrie, surnourrie de références aussi bien au cinéma qu'à la littérature, qu'au roman, enfin, Bataille, Sade, etc. Je commençais mon propos en disant qu'il ne fallait pas s'arrêter sur cette abstraction, ce jeu formel, parce que ce qui est au cœur de ce livre, c'est le corps. Mmh. C'est le corps dans tous ses états, le corps jouissant, ou le corps souffrant, le corps torturé. Donc, il y a certes ce jeu un peu intellectuel, du mathématique, mais c'est un livre extrêmement incarné, un livre de chair. Et moi, ce qui m'a énormément plu, et je trouve ce qui donne une dimension contemporaine, encore une fois, à ce texte qui, on pourrait dire, oui, bon, on l'a vu mille fois, le récit circulaire, etc., c'est l'immense fluidité avec laquelle Jonathan Little mène à bien son travail. Et la fluidité est évidemment et même la liquidité, un motif fondamental, je pense central au cœur de ce livre, ne serait-ce que par l'image de cette piscine, qui moi personnellement m'a fait beaucoup penser au film Le Plongeon avec Burt Lancaster, ce film dans lequel Burt Lancaster rentre chez lui en traversant toutes les piscines du voisinage, de son quartier. Et cette fluidité, elle est contemporaine à mes yeux, parce que elle pose la question de la fluidité du genre. On a parlé de ce personnage qui n'est peut-être ni chaque fois le même, ni chaque fois un autre, mais qui en tout cas, d'une variation à une autre, va être homme, puis femme, voire hermaphrodite. Donc il y a vraiment tout ce questionnement sur le genre, d'autant que c'est quand même un livre très sexuel, encore une fois. Jonathan Little réfute la définition, enfin le mot pornographique pour parler de son livre, puisqu'effectivement il n'est pas dans la logique de répétition, mais à chaque fois de variation. Ça, il insiste beaucoup là-dessus. Et vous faisiez allusion au sec et au livre Le sec et l'humide, Jean-Christophe. C'est vrai que dans ce livre, Jonathan Little mentionnait le chercheur allemand Klaus Teveleit, pour qui la structure mentale d'une personnalité fasciste s'oppose à tout ce qui coule. Et là, on est justement dans tout ce qui coule, dans cette fluidité. Et donc, il y a aussi une dimension politique sur les questions de genre, sur tout ce que peut représenter la fluidité, fluidité identitaire, fluidité migratoire. Et ça, c'est aussi très présent dans le livre.
Mais c'est vrai que la question de l'espoir, je reviens sur un propos de Jean-Christophe Brianchon qui disait que, finalement, puisqu'il ouvre à chaque fois une nouvelle porte, c'est peut-être à chaque fois avec un espoir. Je m'interroge sur cette question-là, c'est savoir est-ce que cette lecture nous afflige ou peut-être nous offre un horizon. Et je reprenais, alors j'ai pas assez de doigts pour trouver toutes les pages des livres, mais ce retour dans l'eau, je vois qu'elle est pure et rafraîchissante, qu'elle est limpide et éclatante, c'est un miroir vif et joyeux, la surface miroitante envoûtante de l'eau sereine et scintillante du bassin. Et c'est vrai que moi je suis resté à chaque fin de séquence, je les ai pas tous lus mais un certain nombre, là je veux dire à l'antenne, avec quelque chose qui est presque une évidence, que l'eau lave de beaucoup de choses. Et il y a une simplicité qui, en fait, je crois, doit se prendre comme telle pour le lecteur. Parce qu'on peut être quand même assez rebuté par la densité du texte, des descriptions, et quand même quelque chose. C'est pas vraiment un livre qui se lit en une fois. Enfin, moi, je l'ai pas du tout vécu comme cela. Parce qu'il faut quand même, je pense, prendre du temps. Et que même physiquement, pour moi, ça devenait pas possible de continuer la lecture par moment. Parce qu'il y a des scènes qui sont d'une, à peu près toutes d'ailleurs, d'une dureté telle que, il y a quand même besoin
de
souffler.
Sauf dans la piscine, justement.
Oui, mais la piscine, tout d'un coup, est-ce qu'on peut le lire d'une façon aussi simple, en fait, aussi, Florent Georgescu?
Oui, je crois que c'est une très bonne idée de lire avec simplicité. Je vous félicite.
Non, non, je vais le marquer à quel jour on est, parce que c'est
toujours
une pierre 29 mars.
Ça fait des années que vous dites ça. Non, mais la simplicité comme manière de se débarrasser de tout arrière-plan. On peut en profiter pour glisser un petit hommage à Clément Rosset, parce que peut-être la philosophie de l'auteur du réel et son double peut assez bien coller à l'univers de Little dans ce livre-là, en tout cas. Il n'y a rien d'autre que ce qu'il y a dans la page. Je ne pense pas qu'il y ait de signification à chercher. Il ne faut certainement pas, je pense, aller du côté de l'allégorie pour essayer de comprendre ce texte. Il est d'abord une expérience immanente à la langue, immanente par la langue à la chair. Et encore, je parlais de saturation de fantasmes tout à l'heure. Ce qui est merveilleux, c'est que le fantasme donne la loi du texte et de l'univers entier de
c'est
de
plus ce le rêve que le fantasme, pardon, Florent.
Je pense que les deux.
Je pense qu'on est plus dans la logique du rêve que dans celle du fantasme.
Je ne le crois pas pour.
Il y a des fantasmes à l'intérieur des rêves.
Les deux se disent. Il est évident que la circulation du livre est sur le modèle du rêve, littéralement. Enfin, les couloirs, les portes qui ouvrent sur des lieux qui sont impossibles à trouver derrière une porte, comme par exemple des lieux de nature. Tout cela est dans la logique, c'est-à-dire l'illogisme du rêve. Mais il y a quand même dans les variations sexuelles du livre une sorte de fantaisie absolue qui est ressortie à un monde du fantasme souverain. Tout est possible, tout assouvissement sexuel est possible dans le livre. Et c'est en ce sens-là, que il me fait penser, moi, de très près, de manière très troublante, en fait, à l'œuvre de Pierre Guillotin. C'est une sorte de progéniture ou de prostitution, pour citer deux textes de Guillotin, mais qu'on pourrait lire en français, puisque, je le rappelle, ces livres-là, ce n'est pas toute l'œuvre de Pierre Guillotin, mais ces livres-là sont écrits en langue, dans ce qu'il appelle en langue sans plus de précision, et qui est simplement sa réinterprétation de la langue. Mais si on arrive à lire du Guillotin, ce sur quoi on tombe est parfois, par certains aspects de l'ordre de cette souveraineté du fantasme notamment, assez proche de ce livre-là. Et c'est vraiment, je pense, un bel éloge qu'on peut faire pour Little, qui atteint à cette netteté, cette précision-là. Parce que s'il y a un auteur précis, c'est aussi, on pourrait aussi citer Eden, que de Guillotin, toujours que ce livre-là, que le livre de Little, évoque même dans sa scansion, dans son rythme le plus interne, le rythme de sa phrase, le rythme de la transition d'une phrase à l'autre, et dans cette fluidité aussi du désir, de la forme, de l'identité, dans ce passage de chaque chose en une autre chose à chaque fois différente.
Jean-Christophe Briançon.
Oui, c'est une souveraineté du fantasme et un onérisme qui, malgré tout, ne sont qu'au service, ou en tout cas ne servent qu'au lecteur à supporter finalement ce qu'on lui donnera, puisque vous le disiez, la lecture est parfois difficile et il affirme même lui-même n'être pas là pour distraire les gens. Et de fait, il nous distrait pas, mais il nous confronte à un réel dont il est impossible de s'échapper autrement que soit par la lecture et peut-être sa lecture, soit par le rêve qu'il met en place et par l'onirisme qu'il essaye de développer.
Florent, rapidement.
Oui, juste, je reviens peut-être rapidement en effet à ce que vous disiez Arnaud sur la joie. Pour moi, je ne sais pas s'il s'agit de se protéger de quelque chose qui s'exposerait là. Je trouve la protection, ou plutôt l'apaisement, c'est ce qu'on trouve de joie absolument sauvage, absolument profonde, absolument dangereuse, mais totale, au cœur même des scènes les plus crues, les plus violentes. Juste trois mots. Une scène sexuelle extrêmement intense, le vertigineux, je cite, le vertigineux, le personnage ressent un vertigineux sentiment de toute puissance, ouvert en moi par la pure disponibilité de mon corps. Atteindre ce moment-là, cette pure disponibilité du corps, c'est atteindre une forme de joie qui est d'une intensité absolue. Et je pense qu'il n'y a pas, il n'y a pas de solution de continuité entre la dureté et la joie dans ce livre. Et c'est une des choses les plus troublantes et une sorte de joie extrêmement et profondément angoissante.
Parce que vous évoquez les cinq séquences qui se répètent et qui ne se répètent pas. Jean-Christophe Briançon, en ouverture, parce qu'on a beaucoup parlé des scènes sexuelles, et extrêmement nombreuses et variées, mais il n'y a pas que ça. Et la violence, la guerre, l'insurrection, la dictature, et toutes les violences du monde sont aussi présentes dans les pages de ce livre. Elisabeth Philippe, il faut quand même en dire un mot.
C'est ça aussi la vieille histoire, c'est cette répétition éternelle de l'homme pris entre le sexe et la guerre. Et il y a une dimension roman totale dans ce livre, d'une part parce que Jonathan Little y met tout ce qui constitue son œuvre et donc ses obsessions, mais qui sont des obsessions bien partagées, qui sont les obsessions de l'humanité. Donc effectivement, le sexe et la guerre, et on retrouve dans le livre des pages qu'on a pu lire dans ses carnets de Homs quand il est allé en Syrie, des pages où on reconnaît l'Afrique, et on sait que Jonathan Little a consacré un documentaire à l'Afrique. Donc oui, il y a aussi toutes ces scènes de violence.
Et la Yougoslavie.
Voilà, il y a toutes ces scènes. Et puis un roman total, parce que il y a la musique, il y a tous les arts aussi dedans. Donc il y a ce côté presque opératique, finalement, du livre. Et encore une fois, c'est absolument pas une lecture fastidieuse. Hein, malgré ce côté
répétitif. Non, difficile, ça veut pas dire fastidieux.
Voilà. Non, mais oui, je pensais, difficile pour le côté répétitif, variation ou sérielle, ce n'est pas fastidieux. Et on est vraiment, on est plongé dans cette prose.
Juste un tout petit mot, pardon.
Encore,
pardon,
après les trois autres qui en ont fait 15.
On a oublié de signaler une chose. C'est l'importance de l'enfance aussi. Il faut dire, on a parlé des changements de genre
et
d'âge.
Et du chat.
Et le chat.
Pardon, mais il y a un chat.
Le chat, toujours lié à l'enfant, justement. Et l'enfance, il y a un chapitre où le personnage est devenu l'enfant qui apparaît dans d'autres scènes. Ce regard de l'enfant est extraordinaire. Ou un autre enfant, certes. Et il faut dire aussi, dans les scènes de guerre, l'enfance, la manière dont on torture, on massacre l'enfance, est quelque chose d'absolument central dans le livre. Enfin, je pense qu'il y a aussi cette question-là.
Mais qui n'est pas fastidieuse, mais éprouvante. Voilà.
Disons-le comme ça. On n'est pas en train de parler de quelque chose de très gai. Bon. Et pourtant, il y a une joie.
On va changer de registre dans un instant. Une vieille histoire, nouvelle version de Jonathan Little est sortie chez Gallimard. Et à suivre dans la dispute, René Belletto et Audrey Villalmi.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute consacrée ce soir à la littérature avec le nouveau roman de René Belletto, carrément intitulé « Être, faire », publié chez POL. Et pour une fois, je vous l'annonce tout de suite, ce sera après la musique, je vais lire non pas le début du livre, mais le quatrième de couverture. Voici donc la quatrième de couverture, hein, que je ne lis jamais avant, mais toujours après avoir fini les livres. Enfin, j'avais pas lu celle de Little, qui est bon. C'est Être de René Belletto, voilà ce qui est écrit. Héros et narrateur de l'aventure, je n'ai pas voulu, comme le lecteur l'apprendra et comme il en apprendra les raisons, que mon nom figurera sur la couverture du livre. Ah oui, aventure. Je ne parle pas de ces prestigieuses aventures de jadis comme écrites d'avance, ni de ces aventures sans lendemain, errant à jamais entre les murs du désespoir. Non, mon désir était plus ambitieux. Je voulais me concevoir au cœur d'une aventure sans aujourd'hui, comme si le grand livre du destin avait brûlé dans l'incendie de quelques bibliothèques. Mais alors, pourquoi m'inquiéter à ce point quand Nathalie me téléphona en pleine nuit et m'annonça qu'elle craignait pour sa vie ? Je lui dis que j'arrivais au plus vite, je traversais la ville en voiture, toute sa maison était éclairée, la porte du rez-de-chaussée entrebâillée. J'entrai, personne en bas, j'appelais, nulle réponse. Je montai au premier, le cœur battant, qu'allais-je découvrir ? Le spectacle qui m'attendait dans sa chambre dépassait mes craintes les plus inimaginables. Là, il est fort Belletto, hein, Florent. Est-ce qu'on a tout de suite envie de lire le livre, non ?
Oui, mais c'est encore et beaucoup plus savoureux quand on a lu le livre, de lire cette quatrième.
C'est vrai.
Puisque, alors ça, il va être un peu difficile de parler de ce roman,
pas trop.
Parce qu'il faut divulgacher le moins possible.
Absolument.
Et notamment, on peut simplement indiquer que le statut de ce qu'on retrouve de cette quatrième dans le texte, le statut à l'intérieur du récit, si on pouvait l'analyser là, on dirait à peu près l'essentiel de la manière qu'à Belletto de structurer son livre.
Comprenne qui pourra.
Oui.
À cette phrase de Florent Georgesco, que vous réécouterez en podcast.
Oui, alors, lisez le livre et puis réécoutez cette phrase, vous comprendrez.
Et puis relisez la quatrième du couverture.
Et puis relisez une nouvelle fois le livre.
Et réécoutez Florent Georgesco.
Non, ça vous pourrez arrêter.
On va faire des records de podcast.
Car donc, de quoi s'agit-il au fond, il s'agit d'aventure, comme il le dit très bien, qui consiste pour un homme à aider une vieille dame qui tombe dans la rue, à voir un portrait de jeune fille chez cette vieille dame. Il paraît que cette jeune fille est morte. Et à partir de là, toutes les modalités du roman qu'on pouvait s'attendre à lire tombent une à une, comme à Gravelotte, dans une... bah oui. Dans une espèce de décomposition d'un roman qui est celui qu'on pouvait attendre, et de recomposition de chacun de ces éléments dans un ordre qui est parfaitement imprévisible. Et c'est, je dois dire, un des grands plaisirs de ce livre, d'être en permanence imprévisible. Il faut dire que Belletto a une sorte de main souveraine sur son livre. Il a une légèreté dans la manière de tout faire avancer et de faire ce jeu de cubes que j'évoque, ce jeu de recomposition incessante des cubes qui donne un très très grand plaisir tout le long du livre. On peut se demander très souvent avec quoi il joue, où il nous emmène. On peut avoir de temps en temps le sentiment qu'il y a une forme de gratuité, parfois un peu lassante. Et puis, il rebondit assez vite. Il y a quelques éléments, comme il mêle, en fait, plusieurs histoires, puisqu'il s'agit, au bout du compte, de composer une seule histoire avec des choses qui sont parfaitement disparates au départ. On peut aussi aimer moins certains aspects. Je dois dire qu'il y a un personnage, le personnage de l'homme à femme, il est présenté, Armand. Qui est une espèce de Séraphin Lompion tragique. Vous voyez, Séraphin Lompion.
C'est bien dit.
L'homme aux blagues, l'homme aux jeux de mots. Qui sont des pages, puisqu'on lit ce qui est censé être, on verra là aussi, enfin là aussi on peut pas dire le statut exact des choses, mais ce qui est censé être son journal. Il y a peut-être de temps en temps chez Belletto une sorte de telle facilité, de telle capacité à en faire beaucoup qu'il en fait trop. Mais ensuite il retombe et continue dans ce cheminement heurté et à la fois dansant, d'une manière qui finalement m'a charmé, sans que j'ai eu au bout du compte le sentiment d'avoir lu un grand livre, mais enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire.
C'est pas mal de prendre du plaisir.
Exactement.
Aussi. C'est vrai que, pour résumer autrement ce que vous venez de dire, Florent Georgesco, il y a la réponse évidemment dans le livre, parce que chaque chapitre, il y a 17 citations. Donc
oui.
Le chapitre 7, El Duende, 1, il faut quand même le préciser, il y a cette phrase de Raymond Chandler qui dit: je ne dirais pas que les fragments s'emboîtaient tous, mais du moins se mettaient-ils à avoir l'air d'appartenir au même puzzle.
Exactement.
C'est assez bien dit. Non, c'est Elisabeth, Philippe, qui continue.
Oui, bah, c'est un jeu, effectivement, on pourrait penser un peu les jeux de l'amour, le jeu de l'amour et du hasard sous la forme d'un roman noir fantaisiste. Belletto joue avec, pratique la mise en abîme, joue avec des doubles, donc sème le trouble. Il y a effectivement ce personnage de Miguel, il y a deux personnages de peintre, en fait, Miguel Padilla et donc Armand, qui est un peu son double maléfique, ce Séraphin Lampion dont parlait Florent. Et puis des femmes qui, elles aussi, se dédoublent, qui sont toutes blonde, je crois, aux yeux bleus, et donc il y a différentes recompositions. Effectivement, l'image du jeu de cube est très bien trouvée. Et tout ce rapport à l'écriture aussi, puisque ce personnage, on l'a bien entendu dans la quatrième de couverture que vous avez lue, Arnaud. Là, est-ce que tout le rapport entre l'écriture et le réel, entre le réel et sa représentation, est-ce que écrire peut créer le réel? Donc il y a tous ces questionnements-là qui sont présents. Il y a une forme de jubilation dans l'écriture aussi. Il y a quelque chose de très musical, beaucoup d'allitération, ce qui rend la lecture assez plaisante, pas mal d'humour. Par exemple, les personnages se retrouvent au restaurant. Le restaurant, c'est le nom du restaurant. Le restaurant, voilà, on peut. Et il y a une dimension un peu modianesque aussi, avec ses errances dans les rues de Paris ou Didier. Bon, il y a tous ces éléments-là, c'est effectivement assez plaisant. Moi, je dois avouer, là, je rebondis sur ce qu'a dit Florent, les pages d'Armand, effectivement, qui fait preuve de... qui est un amateur de jeux de mots consternants et qui reconnaît qu'ils sont consternants, mais est-ce qu'on ne pourrait pas nous en épargner quelques-uns? Ça serait pas forcément une mauvaise chose. Moi, j'avoue qu'au bout d'un moment, j'étais un peu agacée. Parce que ça leste un peu la lecture, oui, quand même. Alors, vous le dites, ça rebondit, mais...
Alors qu'il est tellement léger...
Au troisième, entre parenthèses, oui, j'avoue que j'en avais un peu assez. Et une autre chose m'a un peu gâché mon plaisir de lecture, je dois avouer que c'est la vision très masculine, je pourrais parler de male gaze, si vous m'autorisez un anglicisme.
J'ai pas pu le caser pour Little, mais comme ça vous le faites.
Mais je trouve, moi, chez Little, je trouve pas.
Non, mais justement, c'est ça qui est très intéressant, mais je n'ai pas eu le temps de développer.
Et chez Belletto, voilà, tous ces hommes, donc que ce soit Miguel ou Armand, sont des amants magnifiques et offrent des moments de sexe absolument sublimes aux femmes auxquelles ils font l'honneur de.
Enfin, vous avez compris que c'est des personnages pathétiques quand même, hein.
Bah, pas vraiment Miguel. Oh. Armand, oui.
Oui, mais Miguel, sur ce plan-là, se vend moins qu'Armand.
Non, bien sûr. Mais on peut le voir comme un second degré.
C'est Armand qui dit qu'il est irrésistible.
C'est un raté aussi. Enfin, c'est un artiste raté, Miguel, quand même.
Malgré tout, je trouve qu'il y a quelque chose de très... Il y a un point de vue très masculin.
En même temps, il est peut-être un peu indécidable, parce que tout est toujours, dans le livre, la représentation que quelqu'un a, ou que quelqu'un peut imaginer que quelqu'un a.
Mais vous admettrez que dans chaque scène de sexe, parce que là aussi, il y a pas mal de scènes de sexe.
Oui.
On est toujours, c'est la femme qui est honorée par l'homme. Hein. C'est quand même toujours ça. Jusqu'à la scène, la dernière scène de sexe où là on est.
Non mais oui, mais justement, il joue avec le point de vue masculin et peut-être, il peut y avoir
c'est
un
pas
tout
très
petit peu
réussi
de.
Dans ce
de je peux juste citer une phrase puisqu'on en est au chapitre du sexe. Pardon, rapidement parce que elle est tellement charmante. Nous nous mûmes en une harmonie dont nous savourâmes l'apothéose avec des cris de ravissement.
Point. Jean-Christophe Briançon.
Ça ne demande pas de commentaire.
Non.
Bah, vous disiez, Florent, qu'il en fait trop, et effectivement, vous le disiez tous les deux d'ailleurs, et il en fait trop dès le début. J'ai trouvé, moi j'ai en ouvrant ce livre, eu assez peur d'être très agacé, puisque ne serait-ce que par l'épigraphe qui ouvre le livre, qui est une épigraphe de lui-même, où il fait le malin, quoi. Dès le départ, c'est une parenthèse dans laquelle est marqué ici une parenthèse, mais les mots dont je l'avais comblé se sont enfuis. Alors, bon, à ce moment-là, je me suis dit.
Ça me fait rire, moi.
Alors, oui, mais moi aussi. J'avais pas encore. Conscience que
la reproduction
qu'il
aussi,
allait continuer. La reproduction aussi est très drôle.
On se demande ce que fait ce tableau ici.
Mais elle est drôle une fois qu'on a lu le livre. Et bon, alors au départ, j'avais peur d'avoir affaire à un auteur qui fait le malin pendant 300 pages. Et en fait, c'est pas exactement le cas. Je crois qu'il emprunte. Je pense, moi, ça m'a beaucoup fait penser sur le plan humoristique à Jean-Philippe Toussaint et à la fois une certaine blancheur de l'écriture qui fait aussi penser à Yves Ravec et peut-être pas à publier dans la même maison pour rien. Donc c'est quand même un mélange de
Yves Ravec et Toussaint. Pas Belletto.
Oui,
c'est ça que vous voulez dire. Non, mais je traduis le Briançon dans le texte.
Je vous remercie.
Je vous en prie.
Mais c'est l'émission traduction. C'est un mélange qui est assez intéressant et qui se vérifiera tout au long du livre, qui est un livre réellement que j'ai abordé finalement comme étant réellement le livre de la fuite, quoi, une fuite, la fuite permanente de cet auteur finalement qui, comme le dit un de ses personnages, n'a pas le bonheur d'être né, qui finalement par l'écriture essaye peut-être d'une certaine manière de s'inscrire dans le monde et de naître, mais tout en fuyant ce procédé, tout en ayant peur de la manière dont l'écriture va pouvoir lui permettre finalement d'être dans ce monde. Donc c'est un roman qui fuit perpétuellement, qui fuit tous les genres et qui fuit aussi tous les sentiments, à la fois que ce soit la profondeur aussi bien que l'humour. Et dans chacun de ces personnages, on ressent réellement la présence de l'auteur. Je pense pas que ce soit la lourdeur ou le romantisme ou les questions qui se posent. Finalement, c'est peut-être bien moins un roman qu'une autobiographie. Et ça rend ce livre très touchant.
Oui, parce que le jeu avec le double, avec son identité d'écrivain, caché, pas caché, qu'est-ce que c'est que cette nécessité d'écrire sa vie pour continuer à la vivre ? Enfin, il y a des choses qui, sous couvert de beaucoup de légèreté, qui, moi, m'amusent beaucoup. Moi, je suis très, très, très client de l'humour de Belletto, pas dans sa partie jeu de mots d'Armand, peut-être pas toujours, même s'il y en a quelques-uns qui m'ont quand même fait rire. Il y a cette légèreté, mais il y a quand même quelque chose qui travaille, au fond. Mais pour la légèreté, j'hésite avec. Si les exemples tombent à plat, ce serait desservir Belletto, donc je vais pas le faire. Bon, non, je vais hésiter. Encore un petit moment, non ?
Allez,
une petite. Non, l'usage des parenthèses chez Belletto, qui ne vous aura pas échappé. Alors, je vais prendre laquelle. Bon, allez. Un homme apparut à la porte du restaurant, un serveur vêtu d'un tablier blanc, petit, cheveux décimés, mais bras poilus. Il respira fort comme pour échapper à l'étouffement de la salle d'où il sortait, ouvrez la parenthèse, et de la phrase exiguë dans laquelle je venais de l'enfermer, fermez la parenthèse. Moi, ça me réjouit, il y en a comme ça beaucoup dans le livre. Ça va, vous avez gentiment un petit peu souri. Vous êtes de bons camarades. Je ne suis pas le seul à apprécier Belletto et son retour, Coppella Menardi. Message d'amour qui nous arrive.
Oui, un commentaire sur Twitter de Sylvie-Marie Braillard. Elle écrit « Je suis fascinée depuis plus de 30 ans par ce grand écrivain insuffisamment connu. L'enfer, sur la terre comme au ciel, la Machine, la trilogie Régis Mille, des livres étonnants, un univers très particulier et très personnel, sans couder au-dessus de la production française habituelle. Je suis encore une fois ici séduite par ces jeux de miroir, ces mystères, la musique omniprésente.
Ouais, bon ben voilà, moi j'approuve aussi, j'ai du goût pour cet écrivain-là.
J'ai du goût, je ne le mets pas sans couder au-dessus de tout le monde,
non,
mais
non. Ni en dessous. Non, mais pas mal au-dessus de la production.
Non, mais il faut saluer, je pense, une œuvre aussi singulière, si tenace, qui ne s'embarrasse pas, qui ne se remet pas en question, même si à chaque livre quelque chose est différent.
Oui,
mais je le dis en bonne part, il a l'audace de rester exactement dans ce qu'il a envie de faire depuis, en effet, 30 ans. Et avec en plus une sorte de métier, de souveraineté là aussi, dans l'aisance, ne serait-ce que le passage que vous venez de lire le montre très 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 bien. Tout peut jaillir à tout moment, tout peut être étincelant. Je pense qu'il en fait un tout petit peu trop sur l'être, le ne pas être. C'est de la fantaisie, au fond. Et finalement, Jean-Christophe, moi, j'aime bien qu'il fasse le malin. Mais il ne le fait pas lourdement. Moi, ce que je craignais au début...
Oui, j'aime bien une fois que je l'ai compris. C'est peut-être moi qui mets du temps à le comprendre. Mais au départ,
après,
en tout cas,
quand même.
Voilà, au départ, j'ai eu le sentiment que c'était peut-être du premier degré. Et ça m'a fait peur.
Ouais. Ou quelque chose... j'ai eu un peu peur, moi, au début, de quelque chose qui serait de l'ordre de la leçon formaliste sur ce que doit être la littérature. Mais il est tellement inventif qu'il dépasse tout ce genre de poids, de pesanteur. Et au fond, il fait le malin. Et j'aime beaucoup ça.
Non, mais ça se lit comme un... Moi, ça m'a fait penser à Vertigo, souvent, à cause de ces jeux de double, évidemment. Mais un Vertigo déjanté, Vertigo rigolo, voilà.
Vertigo rigolo.
Vertigo.
On finira ce... Vertigo rigolo, Vertigo...
C'est quand même dommage que je termine là-dessus.
Vertigolo Belletto. Bon, le livre s'appelle Être, et puis René Belletto, c'est vraiment un auteur historique de Paulo Tchaïkovski, Laurence.
Oui.
Donc voilà, qu'il a publié depuis ses 30 années.
Oui,
et quelques.
Oui, même avant même que la maison POL existe.
Avant POL. Oui. J'étais chez Hachette Littérature, je pense, les débuts de Belletto. Être, c'est le titre de ce nouveau livre publié donc chez POL.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Le troisième sujet de cette dispute littérature, et là on va moins rigoler à nouveau, avec Le corps des bêtes d'Audrey Villelmy, publié chez Grasset. Alors, ce n'est que le troisième roman de la jeune auteure québécoise, le deuxième publié en France, et le précédent, Les Saints, avait obtenu justement le prix Sade. Le conte de Barbe Bleue était le point de départ de ce livre. Cette fois, elle parle du Audrey Villelmy, du mythe de Salomé, à l'origine de ce nouveau texte, Le corps des bêtes, qui s'interroge, on va le voir, sur un triangle incestueux dans un pays et dans un temps assez mystérieux. Mie le fait encore. Elle chiffonne son esprit, elle imagine qu'elle tire une ficelle et qu'alors il sort par son oreille, il chatoie devant elle, malléable comme une retaille de tissu. Elle le roule serré et le glisse dans un autre cerveau, celui du poisson qui va périr, celui d'une fourmi ou de l'un des très grands cerfs qui brament à l'orée de la forêt. Elle est étendue, ses formes de 12 ans paraissent sous le drap. Même couverte, elle se sent exposée. Elle ne sait pas comment apprivoiser sa nudité. C'est une sorte d'animal à l'intérieur duquel elle ne peut pas entrer. Alors, elle saisit un morceau de sa conscience et l'enfonce dans la tête du grand héron qui s'est arrêté sur le chambranle. Elle frappe sa langue contre son palais et il s'élance, plume grise, patte longue, au-dessus du littoral. Elle prend de l'altitude avec lui. Elle s'élève au-dessus du phare. Elle voit ses étoques comme une armée sous les vagues. Les bandeaux de sable blond, les algues et les crabes qui grouillent dessous, la lagune, Thess et Abel, minuscules depuis les airs, qui alignent les carcasses de lièvres sur un bûcher de roches et de branches. Le petit dé, assis près de la vieille, qui apprête la tangue en pâté. Loin, sur la grève, la masure délabrée, ses carillons de coquillages, sa collection d'étoiles séchées sur les marches du balcon, sa balustrade défoncée. Du ciel, Mie regarde le toit réparé au chaume et renoirci et repercé. Des haies fraîches creusent le sol, foulées de femmes dessinées en ligne droite entre les dunes et la cabane. Sa mère se cache là, à l'intérieur. Elle dessine sur les murs des cartes et des chemins, des lambeaux de forêt, de villes, de pays. Elle fabrique des créatures et des enfants. Mie voudrait rester près d'elle, mais l'oiseau ne s'arrête pas. Il monte vers les arbres qui coiffent les falaises, se pose au sommet d'un hêtre, puis il repart. Peut-être qu'il vole jusqu'à Sèche pour arracher aux chalutiers des poissons de haute mer, mais alors il devient hors de portée, disparaît. Le drap est froid sur les aréoles en pointe, sur le ventre aussi, sur le début de toison. Les poils rêches s'attachent au tissu. D'un coup, la pensée de Mie est ramenée dans son corps à elle. Elle est nue. Il n'y a plus d'animal visible, elle est seule. Voilà le prologue de ce livre d'Audrey Villelmy, Le corps des bêtes, et Elisabeth Philippe commence à nous en parler.
Oui, Audrey Villelmy, moi j'avais beaucoup aimé son précédent livre, donc comme vous l'avez rappelé, qui était une forme de réécriture de Barbe Bleue, dans lequel les femmes en fait étaient des proies, les femmes de Barbe Bleue, des proies désirantes et consentantes. Et elle creuse ce sillon de réécriture des grands récits, qu'ils soient bibliques ou mythologiques, toujours en les subvertissant un tout petit peu, en instillant une forme de trouble. Et c'est donc le cas ici, à travers ces personnages, comme vous l'avez dit, situés dans un lieu, une époque indéterminée. Moi, je ne peux pas m'empêcher, en lisant simplement la prose d'Audrey Villelmy, de penser à des marines flamandes du XVIIe siècle. Il y a une précision dans la langue, dans les dégradés de gris, pour aussi bien décrire les oiseaux marins que la mer, l'eau, les vêtements des personnages. Je trouve ça très beau, mais je reviendrai peut-être après. Pour essayer de résumer très brièvement cette histoire, donc il y a effectivement ce personnage de Mie qui attend que son oncle Ossip vienne la prendre. Et puis, en fait, il y a toute une circulation incestueuse du désir dans ce livre, puisqu'au départ, il y a également Ossip qui regarde sa mère et qui est pris d'un désir irrésistible. Et toute cette famille qui au départ vit dans une ville part vivre dans un lieu totalement isolé, un phare. Voilà, le symbole phallique est tout à fait là.
Ah bon?
Oui, je vous le dis, j'ai comme ça une espèce
c'est ça,
de
alors.
esprit très très aiguisé pour trouver les symboles. Non, mais c'est assez beau parce que ce paysage tout à fait déserté, quasiment sans humain, hormis cette famille, avec ce phare, donc aussi. Et gardien de phare, il y a aussi tout un jeu sur le regard, puisque c'est par le regard qu'Ossip s'est mis à désirer sa mère. Il est voyeur, il se cachait pour l'admirer lorsqu'elle prenait son bain. Et là, c'est lui qui a la longue vue et qui regarde les bateaux du haut de son phare. Et en fait, à travers cette histoire, donc aussi bien Ossip qui a désiré sa mère que la jeune Mie qui désire son oncle, dans cet espace perdu, hors de toute civilisation, mais justement, Audrey Villelmy interroge, je trouve, de façon assez sensible, la frontière qui sépare la sauvagerie ou l'animalité de la civilisation, et notamment à travers ce personnage de Mie qui a le pouvoir, ou en tout cas qui emprunte le corps des animaux et qui par moments, pour s'échapper, se fait aussi bien ours que grue, rentre dans le corps de ces animaux. Et est-ce que c'est justement notre corps qui nous rend proche des bêtes? Est-ce que c'est notre désir qui nous rapproche d'une certaine forme de bestialité? Donc c'est toutes ces questions qu'elle interroge, mais par le prisme du conte, de cette histoire qui a évidemment des échos bibliques. La mère de Mie se prénomme Noé, donc on trouve énormément évidemment de références. Mais ce que je trouve très très beau vraiment dans ce livre, c'est le télescopage entre cette sauvagerie et la langue d'Audrey Villelmy, qui a presque quelque chose de désuet, qui est extrêmement précieuse, mais au sens noble du terme, pas au sens de préciosité. Ou encore une fois, je voyais vraiment des toiles flamandes, aussi bien des marines que des natures mortes, avec la précision avec laquelle elle décrit les transparences des vers, des coupes de cristal, la nacre des coquillages, la peau ruisselante des poissons. Donc je trouve ce mélange très intéressant et assez troublant.
Jean-Christophe Briançon, sur le corps des bêtes.
Je suis d'accord en ce qui concerne, je suis d'accord sur pas mal de points, mais en ce qui concerne l'écriture particulièrement, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez remarquable qui nous donne le sentiment qu'elle a peut-être atteint un niveau de maîtrise de sa langue qu'elle n'avait pas précédemment, et qui se remarque effectivement par la, on va dire d'une certaine manière, la sécheresse de sa langue comparée à l'aspect foisonnant de l'univers qu'elle nous délivre. C'est un univers qui peut tourner au fantastique de temps en temps, mais dans une langue qui, elle, ne le sera jamais. C'est une langue qui est toujours assez premier degré, assez simple et peut-être même descriptive. Et cet écart-là entre l'univers et sa langue, je trouve très intéressant et très juste, et d'autant plus juste que la solution qu'elle rentre exactement en reflet avec d'une certaine manière la solution qu'elle nous propose. Et c'est ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que c'est un livre où la nature est évidemment omniprésente, mais contrairement à beaucoup d'œuvres qui nous présentent un univers comme celui-ci, la nature n'est en revanche jamais une solution. La nature n'est a priori pas cet endroit qui nous permettra de fuir vers quelque chose de meilleur que ce qu'on a. Et d'ailleurs, ils vivent au bord de la mer, et c'est une mer dans laquelle ils ne se jettent pas, sauf pour mourir, finalement, puisque les seuls personnages qui y vont n'en reviennent pas. Et donc, c'est qu'une mer qui ne sert qu'à revenir. C'est une mer qui ne sert qu'à revenir sur la terre, comme un symbole d'une nature impossible à nous délivrer autre chose que ce qu'on peut trouver dans le réel. Et j'ai aussi beaucoup aimé cette idée-là, de faire de la nature quelque chose d'impossible et du corps, finalement, la solution.
Bon, alors est-ce qu'on est tous d'accord sur tous les livres ce soir? Enfin, j'ai rien dit, mais j'aurais peut-être pas le temps. Florent Georgesco, sur Audrey Villelmy.
Alors, tout ce que vous avez dit, je le vois, il est dans le livre. Oui, nous ne serons pas entièrement d'accord. C'est-à-dire que tous ces éléments, oui, très bien. Mais pour moi, ils sont posés là, sur la table, et ils sont immobiles sur cette table, dans le livre. Ils sont de l'ordre du projet, pour moi, plus que de la réalisation dans le texte, plus de l'incarnation. Je ne sais pas, c'est très mystérieux parfois comment un livre peut, pour soi en tout cas, ne pas prendre vie, ne pas se mettre à bouger dans la lecture. Et donc, je ne sais pas très bien, il n'y a pas pour moi un facteur. Je trouve que la langue est souvent quand même relativement affectée, y compris dans sa simplicité. Mais bon, ça serait à voir. En tout cas, elle me paraît un peu statique. Le texte est entièrement au présent, ce qui est toujours très dangereux. Il faut un grand sens de l'intensité, je pense, pour être pour tenir un texte au présent. Il n'y a pas, pour moi, cette intensité-là. Ça tient à la manière dont on passe d'une phrase à l'autre. Ça se fait sans beaucoup d'électricité, je trouve, dans ce texte-là. Mais ça, c'est qu'un des aspects. On pourrait prendre, et c'est peut-être le lieu de ma plus grande frustration par rapport à ce texte, la question des animaux. Puisque un des centres du livre, c'est ce pouvoir magique que Mi possède d'entrer donc dans une loutre. Au début, je crois que le premier animal, c'est une loutre ou une grue. Enfin bref, elle entre dans tous ces animaux-là, un ours aussi. Or, je trouve que là, l'auteur n'en fait pas grand-chose. On a l'idée d'animal, on n'a pas l'animal. Enfin, on a le nom des choses, on n'a pas les choses. Je trouve qu'il y a... D'abord, c'est fait de manière un peu éparse, sans qu'elle arrive à construire grand chose, je trouve, autour de ça, sinon peut-être un vague sens symbolique. C'est-à-dire, au fond, à force de regarder tous ces éléments qui, pour moi, restent posés sur la table, je me demande si elle n'a pas fait la même chose, si elle n'a pas réellement, volontairement posé les choses sur la table, pour pouvoir les contempler au regard, dans un regard allégorique, justement, tout ce qu'il n'y a pas dans le Little. Je me demande si, au fond, elle ne sature pas, dans son propre esprit, ce texte et chacun des éléments de ce texte de sens, de sorte qu'elle croit ne pas avoir besoin de les faire vivre, et en fait, moi, en tout cas moi, je suis devant quelque chose d'un peu mort. Et ces animaux morts, par exemple,
pour moi, Philippe, c'est justement la qualité picturale de ce livre. Mais alors, je parlais de nature morte, c'est peut-être justement morte, chez vous, oui, ce qui vous a rebuté. Mais il y a aussi ce que vous parliez de ce côté statique, c'est parce que c'est aussi l'histoire d'une fuite impossible. Donc effectivement, oui, c'est échapper dans le corps de bête.
Un texte n'a pas besoin d'être mimétique de ce qu'il veut dire.
Ça le nourrit et ça amplifie cette idée. Je trouve que justement, ça permet à Audrey Villemi d'avoir cette économie de moyens. Parce qu'il y a tellement de symboles, je pense que c'est pas la peine non plus d'en rajouter. Je trouve qu'elle trouve le juste milieu, justement, avec cette écriture, ce présent qui permet un peu d'abolir comme ça la temporalité. Je trouve ça,
La surcharge symbolique n'est pas en soi une économie de moyens. Justement, son moyen principal, c'est le symbole, et elle manque, à mon avis, de l'essentiel des moyens qui font un écrivain et qui font un texte vivant.
Oh non, là vous allez un peu loin.
Il est là pour ça.
Non, je ne vais pas.
Moi, je l'économie du temps, je lègue mon temps à Copelia Ménardi à faire entendre peut-être d'autres avis.
Oui, 2-3 avis sur Twitter. Chloé parle d'une plume mystifiante et déroutante, de poésie à l'état pur. Daniel Harvey lui s'exclame « Quel univers glauque et fascinant !» Et enfin, Josiane Barrette parle de pages imprégnées de sels et de musc striées par les fixations des baleines grégaires.
Bon, alors vous nous laissez avec
ça. Il parle de Little, c'est ça ?
Ouais. Non, mais bon, donc non, je ne vais pas partir sur mon long développement concernant André Villalmi parce que l'heure tourne.
Frustration.
Mais nous sommes venus pour ça.
Fois les bonus. Je suis plutôt de l'avis de Florent Georgesco, mais j'avais un long développement parce qu'on est tenté, évidemment, quand on a des livres au même programme, de faire des parallèles. Et il me semble que ce qui agit chez Jonathan Little, et notamment dans le travail sur la langue et la précision de la langue, reste quand même à l'état, pour moi, un peu débauche chez Audrey Villemi. On va pas écraser sous le poids de la comparaison, mais il n'empêche que voilà, ces livres étaient ensemble au sommaire, et que pour moi il y a quelque chose qui est moins agissant chez Audrey Villemi, même si la recherche lexicale est forte. Pour moi, elle manque de vie, ce texte-là. Bon, je vous l'ai fait la version très très courte, mais là, il faut vraiment qu'on s'arrête sur le corps des bêtes. Mais je lui trouve quand même énormément de qualité à cette très jeune auteure, Audrey Villemi, publiée en l'occurrence chez Grasset. Et il continue à parler, Jean-Christophe Briançon. Avant de conclure cette émission, vous voulez faire le jeu de la dispute, Jean-Christophe ? Non, c'est Camille André qui est chargée de cela, qui va nous rappeler la question d'hier et nous donner sa réponse.
Quel célèbre photographe américain s'est-il approprié les cow-boys des publicités de Marlboro, les retouchant à peine et les mettant à son nom ? Et il s'agit de Richard Prince.
On fait gagner ce soir des invitations pour l'exposition L'épopée du canal de Suez à l'Institut du monde arabe à Paris jusqu'au 5 août. Quelle est la question, Camille ?
Eh bien, dans quel célèbre roman paru en 1872, le héros fait-il la première étape de son long périple à Suez ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales sont à envoyer au auditeurfcr@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission et donc pour réécouter les phrases complexes de Florent Georgesco, c'est sur franceculture.fr, la page de la dispute, pour réécouter, pour podcaster Florent et qu'on comprenne. Non, ce sera assez gravé pour l'éternité maintenant.
Ah non, pas l'éternité.
Rendez-vous demain à 19h, dispute consacrée aux séries en direct et en public du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio. Nous serons avec Lucille Como, Olivier Lam et Joseph Ghost à notre affiche Homeland, saison 7 et Twin Peaks, The Return.